Bonjour, d'état d'urgence en loi anticasseur, de manifestation contre la loi travail en samedi des Gilets jaunes, se répand le sentiment que la liberté de manifester, voire certaines libertés publiques, se restreignent en France d'année en année. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement et comment s'est fabriqué l'arsenal législatif aujourd'hui en vigueur? C'est le sujet d'aujourd'hui avec nos deux invités, Juliette.
Vanessa Codaccioni, vous êtes historienne politiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et vous avez publié récemment aux éditions textuelles « Répression, l'État face aux contestations politiques ». Et Harry Halimi, vous êtes avocat au bureau de Paris, vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme et ces derniers mois, vous avez défendu un certain nombre de gilets jaunes et plus largement des victimes, des personnes se disant victimes de violences policières.
Alors avec tous les deux, on va essayer d'être très pédagogique et de bien expliquer comment s'est fabriqué le vaste arsenal de lois qui régissent aujourd'hui le droit de manifester en France, qui viennent, on va le voir, de plusieurs provenances différentes et qui sont arrivées par des détours différents. Et on va commencer par l'exemple le plus récent, Juliette, donc la loi anticasseur.
Effectivement, donc le 11 avril, le gouvernement promulgue cette loi qu'on appelle la loi anticasseur. Et parmi les dispositions qui ont été discutées à l'Assemblée, la possibilité pour le préfet de prononcer des interdictions de manifester et de constituer un fichier de ces interdictions, une proposition qui à l'époque a inquiété un certain nombre de députés, parmi lesquels le député centriste Charles-Amédée de Courson, qui fait partie du groupe Liberté et Territoires.
Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption, bon, on va lui interdire des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie les raisons sérieuses de l'autorité administrative, ben allons-y, de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues? C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues.
Il faut noter que donc ce fameux article, l'article 3, a été censuré par le Conseil constitutionnel après le vote de l'Assemblée et du Sénat.
Mais subsiste donc dans la loi anticasseur plusieurs articles problématiques. Lesquels?
Alors, notamment la possibilité de faire des réquisitions judiciaires pour faire des perquisitions et des contrôles d'identité aux alentours des manifestations. Ça n'existait pas avant. En tout cas, dans le droit positif, on le faisait quand même, c'est ce qu'on appelait les interpellations préventives, ou les contrôles d'identité préventives, où on avait vu au début du mouvement des Gilets jaunes énormément de personnes arrêtées dans les gares ou aux alentours des manifestations, contrôlées, on trouvait des choses dans leurs sacs, et on disait, bon, ça peut être une arme par destination, donc placement en garde à vue.
Des choses, quel genre de choses?
Même une pomme, ça peut être n'importe quoi. Un gilet jaune, un petit masque pour se protéger le visage des gaz, un masque infirmier. Ça peut être n'importe quoi qui puisse justifier soit le fait de participer à un groupement en vue de commettre des violences, soit le fait d'avoir une arme par destination. Le but, c'est uniquement un prétexte, c'est de vous placer en garde à vue et d'empêcher que vous alliez en manifestation. On vous garde 48 heures en garde à vue. On vous fait un rappel à la loi à la fin, et en revanche, on intimide les gens et on les empêche d'aller en manifestation.
– Et alors vous dites qu'avant la loi anticasseur, c'était illégal ?–
Oui, avant la loi anticasseur, il y avait la possibilité pour le procureur de la République de faire des réquisitions judiciaires de contrôle d'identité sur un secteur géographique déterminé, pendant une période déterminée, pour une infraction déterminée. Exemple, les trafics de stupéfiants à Stalingrad. On pouvait faire des contrôles d'identité pendant 3-4 heures sur la place de Stalingrad pour vérifier s'il n'y avait pas trop de ventes de crack ou ce genre de choses. Ça, c'était légal. Maintenant, on l'a utilisé avant la loi anticasseur pour interpeller des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec les infractions visées dans les réquisitions judiciaires. Et maintenant, on vient de consacrer légalement cette pratique qui était illégale avant la consécration par la loi anticasseur.
Et quand elle était illégale, est-ce qu'il était possible d'une manière ou d'une autre d'attaquer cette pratique?
Bien sûr, quand les personnes étaient poursuivies devant le tribunal, uniquement, parce qu'on pouvait soulever des nullités, irrégularité de la procédure, vous avez été interpellé de manière illégale puisque ces réquisitions n'avaient pas l'objet véritable qui est prévu par la loi. Aujourd'hui, on l'a fait à plusieurs reprises et
avec
on a eu
succès.
Des... Ah oui, on a eu des annulations d'interpellation ou de contrôle d'identité parce que ces réquisitions n'étaient pas légales. Donc on a eu effectivement un certain nombre d'annulations de procédure.
Mais en même temps, on voit bien que si l'objectif était d'empêcher les gens d'aller assister à la manif, l'objectif a été atteint, même si ensuite, effectivement, vous faites annuler la... Voilà.
Évidemment, et c'est pour ça qu'il y a eu des interpellations massives qui ont été dénoncées par toutes les organisations et tous les organes internationaux, hein, comme l'ONU, comme le Conseil de l'Europe, comme le Parlement européen également. Il y a eu véritablement en France la mise en œuvre d'une pratique. C'est une pratique judiciaire en partenariat avec la préfecture de police visant à interpeller le maximum de gens pour des raisons qui n'étaient pas légales et à les empêcher d'aller en manifestation.
D'accord. Et alors, il y a d'autres dispositions problématiques dans la loi anticasseur ?
Il y en a une deuxième qui est extrêmement problématique et on voit que d'ailleurs, les dernières audiences, on était en audience Gilets jaunes en comparution immédiate mardi et la semaine dernière, on voit qu'il y a une problématique avec ça, c'est l'infraction de dissimulation intégrale ou partielle du visage. C'est-à-dire qu'avant, le fait d'avoir le visage intégralement dissimulé, c'était passible d'une contravention. C'était la loi sur le voile intégral en réalité. Aujourd'hui, avec la loi anti-casseurs, on peut poursuivre une personne du simple fait qu'il ait le visage simplement partiellement masqué. Pourquoi c'est problématique ? Parce qu'on le voit aujourd'hui dans les manifestations avec les gaz qui se diffusent dans tous les sens. On est obligé de se protéger, sinon on étouffe ou bien on quitte la manifestation.
C'est la question du motif légitime, non ? C'est-à-dire que dans la loi, si je ne me trompe pas, il y a cette idée que c'est une dissimulation de visage sans motif légitime. Sauf que je n'ai pas l'impression que les motifs légitimes soient vraiment définis.
Bah non, ils ne sont pas définis et c'est toute la problématique. Et c'est pour ça d'ailleurs que le parquet, pour l'instant, hésite à poursuivre sur cette infraction. Parce qu'il a peur et il veut des cas extrêmement clairs pour pouvoir établir sa jurisprudence. Le problème, c'est est-ce que le fait de vouloir rester dans une manifestation est légitime ou pas ? Aujourd'hui, les juridictions considèrent qu'à partir du moment où vous avez des gaz, vous devez quitter la manifestation, même si elle est déclarée et même si c'est sur le parcours traditionnel. Et si vous ne les quittez pas et que vous essayez de vous protéger des gaz, c'est une infraction et donc on peut vous poursuivre. C'est ça le problème.
C'est la jurisprudence, ça.
C'est l'attitude des institutions judiciaires quand on les voit, quand on voit les juges ou les procureurs parler de ces manifestants qui restent alors qu'il y a des gaz ou qui se couvrent le visage. On lui dit « mais pourquoi est-ce que vous restez ?»
Et dans ce domaine-là, vous mettez les juges et les procureurs dans le même sac. Parce qu'on pourrait imaginer que les procureurs soient par nature plus répressifs et que les juges ensuite jugent, atténuent.
Quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment en comparution immédiate, ça fait un peu peur. Hein. Il n'y a pas que les procureurs de la République.
Non, mais je vous demande, parce que vous êtes un praticien.
Mais
de l'extérieur, on nous apprend que voilà, il y a le parquet qui dépend du gouvernement et qui poursuit, et qu'ensuite la justice est indépendante, sereine, et voilà.
Alors,
mais sur ce point précis, ce n'est pas ce que vous constatez.
En théorie, oui. les magistrats du siège sont indépendants. En pratique, quand on est en comparution immédiate, d'abord, le juge ne se repose que sur ce qu'il y a dans le dossier pénal, qui est constitué par le procureur de la République et par les policiers. Donc, ils ne mettent que ce qu'ils veulent et ça dure 2 jours de garde à vue. Donc, après, il n'y a pas d'élément à décharge. Et donc, les juges ont tendance à être un peu plus répressifs pendant les périodes de crise, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ils mettent des peines de prison ferme à des personnes qui n'ont même pas de casier judiciaire, hein, simplement parce qu'on leur reproche, un policier leur reproche d'avoir jeté un caillou. Et donc, il suffit de ça pour aller en prison.
– Je vais poser une question naïve, mais le rôle de l'avocat en comparution immédiate ?
Le rôle de l'avocat, il est celui du rôle de l'avocat dans n'importe quelle juridiction.
Hein. – Vous dites qu'il n'y a que le dossier, mais non, il y a l'avocat quand même.
– Mais l'avocat, il ne prend pas de décision. L'avocat, il étudie. Le dossier, il essaye de réduire un petit peu les éléments à charge. Mais en matière pénale, je ne parle pas que du mouvement des Gilets jaunes, hein. En matière pénale, il y a toujours eu plusieurs parties contre le prévenu. Il y a la partie civile, le procureur de la République, et même les juges, eux, sont beaucoup plus répressifs que d'autres juridictions.
– Alors, cette loi anti-casseurs, elle s'insère dans une certaine tradition française quand même, non ? Ça vous a rappelé des souvenirs ?–
Oui, ça rappelle des souvenirs parce qu'en réalité, on a toujours voulu empêcher les individus de revendiquer, de lutter ou de manifester. Je rappelle juste que, par exemple, toutes les manifestations communistes pendant la guerre froide étaient interdites. Ça n'a pas marché, il en a quand même organisé 450, je crois, entre 1947 et 1952. Donc la volonté d'empêcher de manifester a toujours été là. Le général de Gaulle, par exemple, pour limiter l'ampleur de mai 68, avait décidé de dissoudre une dizaine d'organisations d'extrême gauche, ce qui permettait véritablement d'empêcher les gens de militer et de continuer de lutter. En ce qui concerne précisément la loi anti-casseurs, on est dans une autre généalogie qui est celle de la loi anti-casseurs, qui date de 1978 et qui visait au départ les militants maoïstes.
Cette législation, elle avait pour objectif de punir toute personne prise dans la manifestation ou aux alentours de la manifestation et de la rendre responsable, civilement, pénalement, des violences qui avaient été commises. Vous passez dans la rue, il y a des violences qui ont été commises dans les manifestations, vous êtes arrêté, vous pouvez être considéré comme responsable.
Ça, c'était dans cette loi de 78.
Ça, c'est dans la loi 78, qui était une loi qui, en fait, officiellement pour des débordements dits d'extrême-gauche, et qui très rapidement s'est attaquée à qui ? À des agriculteurs, à des paysans qui manifestaient, qui luttaient, à des étudiants, à des trotskistes, etc. Donc tout de suite, on voit très bien l'ampleur de cette loi anti-casseurs de 78. C'est pour ça que François Mitterrand et Robert Badinter, en 1980, ont immédiatement supprimé cette loi anti-casseurs. Et la droite et l'extrême droite ont toujours voulu ressusciter ce type de législation qui, en réalité, vise à intimider, menacer et empêcher toute manifestation. Le premier à l'avoir fait, c'est Christian Estrosi, en 2010, avec la loi dite anti-bande, qui va créer le délit de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. Voilà. Et plus généralement, aujourd'hui, on est dans une stratégie du pouvoir d'empêcher de manifester. À quoi le voit-on ? C'est que déjà sous l'état d'urgence, en 2015, on a eu plusieurs centaines, plus de 450 interdictions de séjour, c'est-à-dire interdictions de manifester qui ont touché des individus dits potentiellement dangereux pour l'ordre public. Donc on les a empêchés de militer sous l'état d'urgence. On peut prendre aussi l'exemple de l'assignation à résidence des militants de la COP21, 3 semaines après la déclaration d'état d'urgence.
On va y revenir aussi,
mais c'est important, je pense, de dresser ce tableau un peu général pour montrer qu'il y a à la fois une histoire de la répression préventive visant à empêcher et qu'aujourd'hui, au moins depuis 2015, on est en plein dedans.
Ah, j'ai une question de détail sur cette loi anti-casseurs. On a vu passer dans la presse, mais sans trop d'explications, le fait que si un article a été annulé, c'était sur demande du président Emmanuel Macron lui-même qui a saisi le Conseil constitutionnel. Et c'est vrai qu'on n'a pas très bien compris pourquoi le président de la République saisissait le Conseil constitutionnel d'une loi qui avait été votée par sa majorité à sa demande.
En fait, cette proposition de loi, initialement, c'est une proposition de loi de droite au Sénat, Bruno Retailleau.
C'était pour Notre-Dame-des-Landes, non, à la base, c'était après Notre-Dame-des-Landes.
Non, je crois que c'était après le 1er mai, les Black Blocs.
C'est d'accord. Ça,
1er mai dernier.
Et donc, cette proposition de loi, elle a été saisie au bon par LREM, qui s'est dit, bon, bah, y a pas mal de mouvements sociaux, on va se servir de cette loi. Et elle est passée à l'Assemblée nationale, elle a été modifiée par les députés, allégée, à mon sens, hein, sur certains points un peu durcis. Et donc, on a bien vu, hein, vous avez vu tout à l'heure Amédée de Courson parler, et puis c'était un député centriste, hein, donc c'est pas non plus la gauche ni l'extrême-gauche, hein, qui parle véritablement d'une loi qui a un caractère liberticide extrêmement important, et donc tout le monde savait qu'il y avait un risque d'inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Et puis finalement, c'est repassé au Sénat, et au Sénat, les sénateurs de droite, ont tendu un piège à Macron puisqu'ils ont voté le texte en l'état, sans discussion possible, alors qu'il devait encore être rediscuté pour être allégé en termes de constitutionnalité et pour éviter d'être retoqué devant le Conseil constitutionnel. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien Emmanuel Macron, alors qu'il savait pertinemment qu'il y avait aussi des saisines d'autres députés et parlementaires du Conseil constitutionnel, de certains articles du texte, a dit « c'est moi qui vais faire la saisine », comme François Hollande l'avait fait d'ailleurs en son temps pour un texte, mais c'est ce qu'on appelle une saisine blanche. C'est quoi une saisine blanche du Conseil constitutionnel ? Ça veut dire qu'on ne va pas donner de motifs particuliers, on ne va pas viser tel ou tel article, et on ne va pas pousser le Conseil constitutionnel à annuler ou à déclarer inconstitutionnel ce texte, on va juste saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci s'exprime de manière un peu générale et valide le texte. Donc le but d'Emmanuel Macron…
– C'est une saisine non décisive, c'est-à-dire non conclusive, c'est-à-dire
le but d'Emmanuel...
on lui dit « donne-moi ton avis », mais parce que normalement le Conseil constitutionnel, il annule, ou il annule pas, mais enfin il décide.
– Oui, mais enfin, là. Le Conseil constitutionnel, il est quand même saisi sur des motifs particuliers, ouais. Et sur des articles, ouais. Particuliers. Ouais. Et là, il a fait une saisine blanche et générale pour permettre une validation au maximum du texte par le Conseil constitutionnel. C'était ça l'objectif véritable d'Emmanuel Macron.
– Ce n'est pas évident a priori.
– Non, hein. C'est pas évident, mais on rentre dans la stratégie constitutionnelle. –
Mais alors, du coup, si je vous suis bien, il a raté son coup, puisque un article décisif a été annulé.
– Si on veut, il l'a raté partiellement. Il l'a raté partiellement, sachant qu'en plus, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3, elle n'est pas définitive. Hein.
– Ah bon ?–
Ben non, parce qu'ils disent simplement que, voilà, il n'y a pas les garanties suffisantes aujourd'hui.
– Tout à fait.
– Donc il suffit de le repasser à l'Assemblée nationale en mettant les garanties suffisantes. Et là, il sera valide.
D'accord.
Et je pense, ouais, que ça, je pense que c'est pas du tout improbable.
D'accord, pour l'instant, reconnaissons que si la manœuvre était bien celle-là, le coup est partiellement raté quand même.
Les autres articles,
oui,
sont passés.
Autres. Oui, ouais,
mais ils sont aussi extrêmement dangereux. Hein.
Bien sûr, bien entendu, bien entendu. Alors, autre source importante de dispositions en vigueur aujourd'hui, l'état d'urgence de 2015.
Effectivement, donc, du coup, état d'urgence de 2015, l'état d'urgence en lui-même, hasard du calendrier, la conférence de Paris sur le climat, la COP21, se tient quelques semaines plus tard, donc quelques semaines après les attentats, quelques semaines après l'institution de l'état d'urgence, qui permet un certain nombre d'actions policières inédites, dont les assignations à résidence dont vous avez parlé. Et c'est là qu'on voit que les assignations à résidence sont utilisées aussi pour des militants écologistes, sans lien avec des activités de terrorisme. D'ailleurs, on peut en écouter un exemple sur France 2.
Joël Demanjou a vu 20 policiers débarquer chez lui jeudi dernier, assigné à résidence. Il a vu son quotidien bouleversé et tient à ne pas montrer son visage.
À 9h, je dois être au poste, à 13h et à 19h30. Là, je suis arrivé en avance ce matin. On m'a dit, ah non, vous ne pouvez pas être en avance, c'est 9h pile. Entre 20h et 6h du matin, je dois être chez moi. J'ai pas le droit de sortir de Malakoff pendant 15 jours. C'est très contraignant, en fait.
Lui, le militant écologiste, au casier judiciaire vierge, ne comprend pas ce qu'on lui reproche.
Je trouve ça incroyable, en fait, parce que je subis une sanction sans passer par une case judiciaire, en fait. Mon assignation ne cite aucun motif me concernant particulièrement, à part le fait d'avoir animé des réunions de préparation à la COP21.
Alors là, on est dans un cas de figure absolument incroyable où une disposition qui est prise pour lutter contre le terrorisme, ouais, est appliquée à des manifestants potentiels écologistes sur la COP21.
Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire une disposition prise officiellement pour lutter contre les djihadistes dans un contexte terrible, hein, celui du Bataclan. François Hollande proclame l'état d'urgence, le dit, l'assaut n'est quand même pas fini. 3 semaines plus tard, ce sont des militants qui sont assignés à résidence. Et là, on voit très bien quelque chose de plus général, qui est l'application de la logique antiterroriste à la gestion du militantisme. C'est-à-dire qu'on va utiliser des dispositifs de lutte antiterroriste pour les appliquer à des militants et des militantes. Et ça, malgré tout, ça a toujours un peu existé. C'est-à-dire qu'on a toujours pris des dispositions qui avaient été prises pour une cible, et on va immédiatement les appliquer pour d'autres. Je vous donne 2 exemples dans l'histoire. Le premier, c'est la loi, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. La loi de dissolution de 1936, qui a été votée par le Front populaire, et qui était à l'origine, les socialistes et les communistes l'ont votée, pour pouvoir dissoudre toutes les ligues d'extrême droite, qui étaient extrêmement dangereuses. 3 ans plus tard, c'est le Parti communiste qui est dissous. C'est un premier exemple. En 1963, le général de Gaulle crée un tribunal militaire, une juridiction d'exception, pour juger l'extrême droite, l'organisation armée secrète, OAS, les partisans de l'Algérie française qui avaient commis des attentats. Quelques années plus tard, ce sont des militants d'extrême-gauche de mai 68, des maoïstes, puis des indépendantistes corses, basques, bretons qui vont être touchés par cette juridiction. Donc on voit très bien que, une fois qu'un dispositif est là, pour une cible, officiellement et consensuellement décrié, des djihadistes, des gens qui ont commis des attentats, va s'appliquer à d'autres cibles qui n'étaient officiellement pas dites au départ. Et ça, c'est assez courant dans l'histoire, mais là, on voit très bien que ça s'aggrave.
Et il existe des moyens juridiques de contrecarrer ce qu'on pourrait appeler un abus de droit, quand même.
C'est le procureur de la République qui… Alors, ça dépend des situations. Hein. Là, en l'occurrence, il y a eu des recours pour les militants de la COP21 devant le Conseil d'État. D'abord devant le tribunal administratif pour faire lever les assignations à résidence ou les perquisitions, puis devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit quoi? Parce que c'est lui qui décide, c'est le juge qui décide comment interpréter la loi sur l'état d'urgence. Il a dit, c'est vrai que c'est pour la menace terroriste, mais à partir du moment où on a besoin de toutes les forces militaires, armées, policières, pour lutter contre cette menace terroriste pendant l'état d'urgence, on ne peut pas permettre qu'il y ait d'autres militants qui drainent les énergies des forces de police, donc ces perquisitions et assignations à résidence sont justifiées dans le cadre de l'état d'urgence. Donc bien évidemment, il y a des recours. Mais quand on est devant une juridiction administrative, comme le Conseil d'État par exemple, qui est plutôt favorable à l'État, c'est extrêmement compliqué de lutter contre ces détournements. Mais pareil au niveau judiciaire. On peut prendre l'exemple du lycée Arago avec des lycéens qui ont, et universitaires qui sont rentrés dans un lycée pour faire une assemblée générale dans une classe, après une manifestation, c'était pour la défense de la fonction publique. Ils ont été interpellés, pratiquement 120 personnes, dont beaucoup de mineurs, mis dans un bus, et on les a interpellés sur le fondement d'une infraction qui n'avait pas vocation non plus à s'appliquer là, hein, parce que là, ils voulaient faire une assemblée générale. L'infraction, c'était l'intrusion dans un lycée en vue d'y commettre ou de porter un trouble à l'ordre public.
Alors, sur le contexte dans lequel cette infraction avait été votée, dans lequel la loi a été votée, on a fait des recherches et on a retrouvé, en effet, la manière dont elle était justifiée à l'époque.
Oui, c'est donc la fameuse loi anti-bande dont vous parliez un peu plus tôt. Donc, en fait, en mars 2009, l'intrusion d'une bande dans un lycée de Gagny, en Seine-Saint-Denis, devient le prétexte pour porter cette loi anti-bande dont Christian Estrosi a été le rapporteur. Elle a été votée le 2 mars 2010, elle est toujours en application, et voilà comment France 2 l'a présentée à l'époque.
Fouilles des cartables et port de cagoule interdits aux abords des manifestations, ce sont les articles les plus controversés de la loi contre les bandes violentes, loi discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte avait été demandé, vous vous en souvenez, en urgence par Nicolas Sarkozy après l'intrusion d'une bande armée dans le lycée de Gagny en mars dernier.
Là, c'est la conduite sportive.
Une rixe entre bandes. Pour ces hommes de la BAC de Rouen, c'est une intervention de routine. Une quarantaine de personnes, des mineurs pour l'essentiel, ont tenté d'en découdre. Les policiers et notre caméra ne sont pas les bienvenus. Cette fois-ci, il s'agirait d'une histoire de rivalité amoureuse. Un rien peut déclencher un affrontement.
Alors vous partez, vous quittez les lieux, c'est bon.
Pourquoi ça part en bagarre?
On n'a pas trop d'explications. Ils ne veulent jamais nous en donner. Donc.
C'est des regards de travers.
De forte chance, voilà, c'est ça.
Ces jeunes hommes appartiennent-ils à une bande? Qui est impliqué? Difficile de le savoir pour les policiers souvent confrontés à la loi du silence. Face à ces situations, les policiers se sentent parfois démunis. D'où cette proposition de loi. Désormais, la participation à une bande violente pourrait être punie de 3 ans de prison. Le texte de Christian Estrosi prévoit aussi de réprimer les personnes qui accompagnent un groupe armé. Parmi les autres mesures, le port de la cagoule sera retenu comme une circonstance aggravante et les arrestations pourront désormais être filmées par les policiers. La proposition vise également à lutter contre les violences dans les écoles. Ainsi, les cartables pourront être fouillés et l'intrusion dans un établissement scolaire punie d'un an de prison.
Voilà, donc là, on voit parfaitement le contexte dans lequel cette loi avait été votée.
Voilà, et donc l'introduction de ces fameux délits d'intrusion dans un établissement scolaire, je cite, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Sauf que comme effectivement à la base c'était prévu pour empêcher des rixes dans les établissements, comme vous le disiez, ça a été utilisé autrement au lycée Arago le 22 mai 2018. On peut d'ailleurs regarder un témoignage.
Jeanne a 17 ans. Le 22 mai dernier, elle décide de participer à une assemblée générale au lycée Arago. Dans la soirée, les forces de l'ordre interviennent pour faire évacuer les lieux. Une centaine de personnes est alors interpellée. Jeanne en fait partie.
On a été mis dans un car de CRS vers 20h30, personnellement. Et le car a attendu pendant à peu près 4 heures sur place, sans qu'on puisse sortir, sans qu'on puisse avoir d'eau, sans qu'on puisse aller aux toilettes et sans qu'on nous parle, puisque le car était insonorisé, on ne pouvait pas discuter avec les CRS à l'extérieur, on ne pouvait rien demander du tout. Je me suis dit, mais ça, c'est pas normal, c'est pas légal, ça devrait pas, on ne devrait pas être traité comme ça, en fait. On n'a rien fait qui mérite qu'on soit traité comme ça.
Jeanne reste 24 heures en garde à vue, comme d'autres mineurs. Les parents qui se disent consternés décident de créer un comité, soutenu par la Ligue des droits de l'homme. Ils dénoncent des méthodes inadmissibles et disproportionnées.
Voilà, puis on vient de voir fugacement dans ces images que vous étiez à l'époque l'avocat de plusieurs parents, c'est ça ?
Toujours. Et majeur, hein. Il y avait des jeunes majeurs également, et ils ont été condamnés en première instance. Et il y a un appel actuellement, donc autant vous dire que c'est vrai qu'on a un petit peu été choqués par le fait que des juridictions retiennent ce texte-là d'intrusion dans un lycée pour condamner des personnes qui voulaient simplement aller faire une assemblée générale.
Et alors j'imagine que quand vous avez plaidé.
Oui.
Et quand vous plaidez ça, j'imagine que vous faites valoir cet argument, vous faites valoir auprès du tribunal que, je veux dire, le contexte est quand même très très différent celui dans lequel l'affaire présente s'applique. Et on vous répond quoi ?
C'est ce qu'on appelle, juridiquement parlant, une interprétation exégétique. On retourne à l'origine du texte. Qu'est-ce que voulait, c'est toujours ce qu'on fait, qu'est-ce que voulait le législateur quand il a créé ce texte? On nous répond rien, parce que le juge n'a pas à nous répondre. Il nous répond dans la décision, pas grand-chose, parce que finalement, ils prennent des décisions sans véritable motivation. Il y a un vrai contexte politique dans le cadre des manifestations et des mobilisations sociales. Les juges ont eux-mêmes une véritable pression, donc ils prennent des décisions en se disant que finalement, une peine d'emprisonnement avec sursis, c'est pas grand-chose pour des lycéens et des universitaires. Sauf que si, c'est beaucoup. Et en plus, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps, par exemple, que un grand nombre de lycéens d'Arago avaient été fichés S. Et ça a été reconnu d'ailleurs et confirmé par le Canard Enchaîné. Et donc, ça leur crée des problématiques véritables, puisqu'à chaque fois qu'ils partent en voyage, eh bien, ils sont contrôlés dans les aéroports, très longtemps. Il y en a une qui a été contrôlée en Italie par la police italienne parce qu'elle avait cette fiche S. Donc on se rend compte que ça prend des proportions terribles et on se rend compte que ce qui était initialement prévu pour des législations terroristes revient finalement aux terroristes puisqu'on assimile des manifestants à des terroristes avec les fiches S.
Ouais. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait caractéristique. C'est à la fois l'ampleur du fichage hein, qu'il ne faut pas, je crois, minimiser. Il y a la fiche S, mais il y a d'autres fichiers qui peuvent toucher des activistes. Hein. Je pense au FIGET, qui était le FIGET, F-I-G-A-I-T, qui est un fichier qui a été mis en place pour condamner les personnes, pour ficher les personnes qui ont été condamnées ou jugées pour terrorisme et qui vont s'appliquer à des militants basques ou corses notamment. Donc il y a une assimilation djihadisme-activisme. Et il faut dire que la fiche S, elle est très particulière parce qu'on assiste à cette assimilation, djihadisme militant ou manifestant ou manifestanteux, mais c'est un stigmate. Qu'est-ce que ça veut dire être fiché S pour la société actuelle aujourd'hui? Ça veut être fiché comme un djihadiste, comme quelqu'un qui pourrait demain commettre un attentat. Donc c'est une forme d'injure, une forme de stigmate et qui pèse sur les militants. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important dont on parle peu. C'est qu'effectivement, il y a des procès, il y a des violences policières, etc. Il y a une forme de répression invisible, comme la fiche S, qui va s'abattre sur des individus contre lesquels on ne peut rien, on ne sait pas si on est fiché, par exemple. On ne peut pas le savoir, on va l'apprendre lors d'un contrôle, lors d'une arrestation, etc. Et ça, je crois que c'est des choses assez graves. Et on l'a vu dernièrement aussi avec la répression du mouvement des Gilets jaunes, où des médecins et des hôpitaux ont reconnu qu'ils avaient fiché des manifestants Gilets jaunes qui avaient été blessés. Donc on voit que le fichage devient une technique de plus en plus importante dans la gestion du militantisme et de l'activisme, alors qu'à la base, pour certains fichiers, c'était absolument pas prévu pour ça.
Et ce qui est vrai, c'est que vous avez tout à fait raison de souligner cette assimilation progressive entre contestation politique et terrorisme. Mmh. Et ce qui nous frappe ici à Arrêt sur Image, c'est qu'il y a un certain nombre d'émissions sur les chaînes, notamment sur les chaînes d'info continue, qui, nous semble-t-il, contribuent à accréditer cet amalgame.
Oui, oui, il y a une forme depuis le début du mouvement. On assiste parfois à un glissement dans le vocabulaire qui est utilisé. On l'a noté effectivement sur les chaînes d'info, sur d'autres chaînes de télé. On a pris un exemple après la manifestation du 16 mars.
Maxime Nicole, moi je ne comprends pas pourquoi il est encore dehors, Maxime Nicole. Il vient de déclarer après une journée historique, c'est ce qu'il dit. Maxime Nicole promet un nouveau très gros acte dans 3-4 semaines. Mais je trouve ça absolument. Alors il annonce ça, il est dehors.
Eh bien, dans certains pays, et dans des pays très démocratiques, aujourd'hui, il serait enfermé, excusez-moi, parce que ça n'existe plus, à Guantanamo.
Et si on interpelle les gens le samedi, si ces gens sont condamnés ce soir et que les peines sont fortes, samedi prochain, ça sera peut-être plus calme. C'est des ultras qui veulent casser la République, qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, seront contre ce que tu pourras proposer, et ces gens-là, il faut les éradiquer.
D'abord, je pense qu'une majorité de ceux qui nous regardent ne comprend pas pourquoi ça ne se disperse pas, mais même de façon violente, oui, face à la violence de ceux qui sont là.
Et on est incapacité par des vieux syndromes. Tout le monde a en tête Malik Oussekine, etc.
Et aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter comme des terroristes.
Alors voilà, alors après, il est toujours compliqué de savoir si c'est ce type d'émission qui contribue à créer un air du temps, dans quel sens ça marche.
Bah, les politiques ont toujours assimilé, on est toujours essayé d'assimiler militantisme, activisme et terrorisme. On peut remonter au 19e siècle avec la répression des anarchistes. Là, aujourd'hui, c'est toujours le même cas. On va dire ce sont des terroristes. C'est ce qu'on a vu là. Je me rappelle aussi que certains, au moment de la grève des cheminots, il y a quelques années, on avait dit qu'ils faisaient une prise d'otage.
Et quelqu'un... Voilà, ça, on le dit en permanence. Mais... Vous écoutez n'importe quel journal télévisé pendant une grève de cheminots, le mot prise d'otage, si vous voulez.
Sauf qu'il y avait un reste rescapé du Bataclan qui a dit non, moi j'ai été pris en otage. Mmh. Donc une prise d'otage, c'est pas ça. Donc vous voyez, il y a une assimilation. Et les médias vont y participer en diffusant cette idée que ce sont des terroristes, que ce sont des casseurs, etc. Ce qui est une manière de stigmatiser, de dépolitiser, d'en appeler à plus de répression. Mais ça, c'est tout à fait courant. Sauf que je crois, et j'insiste là-dessus, que c'est différent de le dire aujourd'hui, après le Charlie Hebdo, après le Bataclan, de dire que quelqu'un est un terroriste aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave qu'avant. Et ça a des incidences en matière de répression. La fichesse, l'association de malfaiteurs, les assignations à résidence, etc.
Cette assimilation, c'est un phénomène purement français ou vous le constatez dans d'autres pays ?
Non, c'est partout.
C'est partout, voilà.
C'est partout. On peut prendre l'exemple de l'Angleterre avec l'Iran, on peut prendre l'exemple des Brigades Rouges en Italie, on peut prendre l'exemple de la RAF en Allemagne. Ça a toujours existé. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça a une résonance émotionnelle extrêmement forte auprès des opinions publiques. Dans des contextes et dans des sociétés, il faut le dire, qui sont intolérantes à la violence. Le mouvement des Gilets jaunes fait un peu exception, puisque l'opinion publique a quand même soutenu ce mouvement en disant on comprend les violences, on ne les accepte pas, mais on les comprend. Mais aujourd'hui, on est dans des sociétés intolérantes à la violence, même à des violences politiques ou syndicales. Ça, la population ne l'accepte plus. Et donc, du coup, dire de personnes que ce sont des casseurs, des vandales, des terroristes, ça marche, ça peut payer.
Juste une anecdote, après le décès de Rémi Fraisse, on a parlé de djihadistes verts pour les écolos qui étaient sur la zone de Sivens. C'était vraiment
On a parlé de qui ?
Oh, il y a eu énormément de commentateurs ou d'hommes politiques qui ont utilisé le terme djihadiste vert. Il y avait même le directeur de cabinet du préfet de l'époque, sur la zone de Sivens, qui avait déclaré qu'il y avait des drapeaux de Daesh sur la zone de Sivens. Donc c'est vrai qu'il y a cette assimilation. Mais effectivement, pour y répondre, il y a trois types d'assimilation entre terrorisme et militantisme. Il y a l'assimilation légale, c'est-à-dire qu'on utilise des dispositifs à l'origine terroriste avec la notion de logique de soupçon ou d'intervention bien avant la commission de l'acte, et on les étend progressivement vers le cercle militant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, il y a aussi la pratique judiciaire. On utilise aussi des dispositifs qui sont prévus initialement pour de la justice antiterroriste et on les applique en les détournant vers la pratique militante. Et puis, il y a évidemment tout la logorée, tout le discours que l'on voit dans politique, d'hommes politiques, qui est repris dans les médias et qui véhicule cette assimilation progressive entre terrorisme et militantisme. Et c'est vraiment extrêmement dangereux parce que ce sont vraiment deux domaines qui sont radicalement différents.
Et ce qu'on vient de voir dans notre montage, c'est que c'est pas seulement des journalistes qui reprennent les hommes politiques, mais les journalistes ou des animateurs qui reprennent à leur compte ce type d'éléments de langage.
On peut dire aussi que ce sont des journalistes donc favorables à la répression, donc plutôt engagés à droite. Il faut aussi voir ça, c'est-à-dire le positionnement politique des journalistes est important pour analyser, pour comprendre ce type de réaction. Dire, je ne sais pas qui a dit ça, mais qu'il fallait mettre des militants dans la Guantanamo, c'est complètement ahurissant.
Alors, en l'occurrence, c'était un syndicaliste policier dans l'extrait.
Ça explique, mais pour les journalistes, évidemment, un journaliste logiquement de gauche ne dirait pas des choses comme ça.
Logiquement. Alors, juste pour en revenir à l'état d'urgence, donc on a vu de quelle manière il avait été surexploité, y compris au moment de la COP21. Donc l'état d'urgence a été suspendu.
Oui, on sort de l'état d'urgence à l'automne 2017, après six prorogations de l'état d'urgence. Donc, c'est sous Emmanuel Macron. Et donc Macron nous fait sortir de la France de cet état d'urgence, mais non sans faire voter une loi qui a pour but de renforcer la lutte contre le terrorisme, avec un mot d'ordre à la clé, répété à l'envi par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb.
L'état d'urgence a été décrété par le président Hollande, ça c'était dans la salle de crise, toujours au ministère de l'Intérieur. Cet état d'urgence, il a duré 719 jours et il a été prorogé 6 fois en 2 ans. C'était inédit depuis la guerre d'Algérie. Depuis 0 heure, cet état d'urgence est levé. Est-ce que cela va changer la vie des Français, la protection des Français ?
D'abord, si vous voulez, on ne pouvait pas rester toujours dans l'état d'urgence. Donc, à un moment donné, il fallait en sortir. Mais moi, je ne voulais pas en sortir sans qu'il y ait une loi qui protège les Français. Et donc, c'est la loi qu'on a commencé à présenter au Sénat avant les vacances. C'était la première loi que l'on présentait pour pouvoir introduire des éléments qui nous permettent de continuer à protéger les Français. Et donc, c'est la loi sur la sécurité.
Une rupture, direz-vous. Est-ce que vous êtes dans la continuité de vos prédécesseurs ou dans une rupture ?
On a essayé d'être dans l'équilibre. Vous voyez, chaque fois, il faut à la fois assurer la sécurité, mais en même temps faire en sorte que les libertés soient préservées. Donc cette loi, nous avons essayé de la faire pour qu'évidemment les Français puissent être totalement protégés, mais qu'en même temps, l'intervention du juge des libertés, par exemple, pour les mesures les plus intrusives, par exemple celles qui permettent d'entrer chez vous, de saisir des documents, puissent être totalement protégées.
Alors, l'état d'urgence a été suspendu, c'est ça ?
Il n'a pas été prolongé.
Il n'a pas été prolongé, voilà. Alors, cela dit, des dispositions de l'état d'urgence ont été transposées dans la législation, dans le droit commun.
Pratiquement toutes les dispositions, en réalité.
Tout ?
Pratiquement tout. Notamment, il y en a une qui n'avait pas encore été transposée et qu'on a voulu transposer, c'était cette interdiction de manifester de manière administrative. Mais pratiquement tout, c'est-à-dire les dispositions principales, à savoir la possibilité d'assigner à résidence quelqu'un ou la possibilité de perquisitionner quelqu'un. La particularité de l'état d'urgence, c'est que ça se fait de manière administrative. Sous état d'urgence, c'est-à-dire que c'est le préfet qui décide, et pas un juge judiciaire, alors que ce sont des mesures particulièrement intrusives et qui violent les libertés individuelles. Avec la loi SILT, cette loi qui a été adoptée pour pérenniser finalement l'état d'urgence dans le droit commun, c'est ce qui s'est passé, on a changé un peu le nom de ces mesures, ça ne s'appelle plus assignation à résidence, ça s'appelle MICAS.
Ça s'appelle
MICAS, mesure… les acronymes, j'ai un peu de mal avec tous leurs acronymes. Et puis les perquisitions s'appellent visite domiciliaire. Bon, ils ont changé de trois mesures de protection individuelle, c'est-à-dire qu'ils ont fixé la possibilité d'avoir recours à un JLD, un juge de la liberté de la détention. Et finalement, ils ont introduit l'état d'urgence dans le
droit commun. Excusez-moi, ils ont la possibilité d'avoir recours à un JLD, c'est-à-dire quel sera le rôle de ce juge de la liberté de la détention?
Le juge de la liberté à la détention va autoriser les perquisitions au début de la perquisition, mais c'est tout. Pas pour les assignations à résidence. Les assignations à résidence ne passent pas par un juge judiciaire. Donc on peut aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour un certain nombre de personnes, il y a des personnes qui sont toujours assignées à résidence et qui sont toujours perquisitionnées administrativement sur la base de cette loi SILT, c'est-à-dire sur la base de l'état d'urgence. Mais juste un mot sur l'état d'urgence pour y revenir, il n'a eu aucune efficacité véritable, l'état d'urgence. La plupart des personnes, et il y en a eu beaucoup, qui ont été assignées à résidence ou qui ont été perquisitionnées, et pas uniquement des militants COP21, là on parle de la plupart des personnes, c'est des personnes qui ont été assignées à résidence ou perquisitionnées en raison de leur confession musulmane. La plupart des gens sont restés assignés à résidence un certain temps. Et à la fin, on a abrogé ou on n'a pas prolongé, mais il n'y a rien eu contre eux. Et ils n'ont rien fait. Et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas liés à la menace terroriste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus restreint. Ce qu'on utilise aujourd'hui, le reliquat de l'état d'urgence, c'est surtout pour fermer des lieux de culte. Il y a la possibilité de fermer des lieux de culte dans la loi SILT. Et c'est surtout ça, la pertinence de la loi SILT aujourd'hui. On ferme des lieux de culte musulmans, salafistes. Et d'ailleurs, hier, M. Macron a annoncé qu'il allait utiliser cette possibilité de manière plus importante.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore eu d'utilisation de ces dispositions de l'état d'urgence, par exemple, contre des gilets jaunes, sur les perquisitions les assignations à résidence.
Non.
Mais sur le papier, ce serait possible.
Non, ça n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que la loi SILT est beaucoup plus stricte en matière de critères que la loi état d'urgence.
Ah.
Aujourd'hui, la loi SILT, elle ne concerne que…
– Rassurez-nous une seconde.
– Je vous rassure.
– Depuis le début de l'émission, quand même…
Le texte, parce qu'il y a eu un combat des associations dont on faisait partie, de la Ligue des droits de l'homme et de nombreux universitaires, on a combattu tout, au jour le jour ces textes-là. Et on a obtenu que le texte soit extrêmement strict et qu'il ne concerne vraiment, cette fois, que la menace terroriste. Donc, il est impossible, à mon sens, légalement, d'utiliser cette loi SILT pour des personnes qui n'ont pas vraiment de lien direct avec la menace terroriste.
– D'accord. –
On utilise d'autres dispositifs maintenant.
– Oui, on l'a bien vu.
–
Voilà, mais il était bon que ce soit dit. Il y a un mot qui revient très souvent dans la médiatisation de ce genre d'affaires, c'est le mot « outrage ». On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut être mis en examen pour outrage. Alors la dernière fois que le mot est revenu, c'est dans la mise en garde à vue de notre confrère Gaspard Glantz le week-end dernier, où effectivement il a fait un doigt d'honneur à un policier et donc il a été mis en garde à vue pour outrage. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce délit d'outrage ?
C'est un délit qui existe depuis un petit moment, depuis c'était Sarkozy, je pense, c'était sur le monde de Sarkozy.
Excusez-moi, on voit par exemple là, on voit un certain nombre de titres. Arles, un gilet jaune condamné pour outrage et rébellion. Deux manifestants, à Nice poursuivis pour outrage à agent. Une avocate, une consoeur, tiens, de gilet jaune convoquée à Avignon. Au commissariat pour outrage à un policier, qu'est-ce qu'elle avait fait par exemple? Vous connaissez l'affaire?
Le simple fait, je ne connais pas l'affaire, mais le simple fait d'avoir une injure ou un mot injurieux ou à l'égard d'un policier, mais également à l'égard d'un magistrat ou d'un avocat. Également, nous on est visé dans le texte pour l'outrage. On peut être victime d'outrage en tant qu'avocat. Mais ce texte, il a surtout été utilisé historiquement pour permettre à des policiers qui étaient eux-mêmes poursuivis éventuellement ou impliqués dans une bavure policière, de se défendre. C'est ça qu'on a vu pendant très très longtemps en tant que praticien. On a un policier qui interpelle un peu trop violemment ou qui commet des violences sur quelqu'un, un jeune en bas d'un hall d'immeuble. Pour éviter d'être lui-même poursuivi, il va directement poursuivre la victime pour outrage et rébellion, en disant simplement qu'il l'a insulté. Et ça permet de faire un contre-feu pour d'éventuelles poursuites contre les policiers. Donc c'est vraiment une protection pour les violences policières. Et donc on a en fait finalement ces victimes de violences policières qui sont doublement victimes, parce qu'elles sont à la fois victimes, avec une absence de poursuite pour les violences dont ils ont été victimes, et en plus poursuivis pour des outrages contre des policiers. Et d'ailleurs, il y a eu une vraie polémique pendant un petit moment, y compris au sein des juridictions judiciaires, qui disaient qu'il y avait un peu trop d'utilisation abusive de l'outrage par des fonctionnaires de police qui visaient à arrondir leur fin de mois avec les dommages et intérêts qu'ils obtenaient devant les juridictions correctionnelles.
C'est un rapport de l'inspection générale de l'administration de 2014. Effectivement, ils s'inquiétaient du coût que ça représentait, parce qu'à chaque procédure, en fait, les policiers étaient indemnisés. Et donc, ça, c'était une inquiétude.
Ils avaient recours aux avocats qui étaient eux-mêmes payés par le ministère de l'Intérieur. C'était aussi ça le coût.
Oui, c'est du coût que ça représente pour l'administration, en fait, puisque l'administration paye les frais d'avocat.
C'est la protection fonctionnelle.
Oui. Et alors, cette disposition-là, par exemple, c'est pas une disposition qui a été adoptée spécialement pour protéger les policiers en cas de violence policière. C'est une disposition antérieure, et tout d'un coup, ils se sont rendus compte, les policiers se sont rendus compte, et leur syndicat, j'imagine, qui ont dû faire passer le mot d'ordre. Enfin, je pense que ça s'est passé comme ça, je sais pas.
Je pense que ça s'est fait naturellement. À partir du moment où vous avez tapé sur un gamin et que vous n'avez pas envie d'être poursuivi, vous déposez une plainte contre lui et vous avez un outrage de rébellion. Mais j'en ai eu un paquet. À chaque fois, je vais même vous dire une anecdote. Le président de la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui est très bien connu par les journalistes parce que c'était le président du droit de la presse, mais également à une époque des violences policières, avait dit lors d'une audience où un policier était poursuivi pour avoir violenté quelqu'un, mais est-ce que vous avez une circulaire du ministère de l'Intérieur qui vous oblige à déposer plainte pour outrage et rébellion à chaque fois qu'il y a une bavure policière? Et ça, c'était un président de juridiction qui le disait. Hein. Donc effectivement,
ils ne sont pas tous dans la main du parquet quand même.
Pas tous. Ouais. Encore heureux, parce que sinon on n'aurait plus rien à faire.
Hein. Ça serait compliqué pour vous. Ouais. Alors vous défendez un grand nombre de victimes de violences policières. Hein. Et récemment, par exemple, Geneviève Leguet à Nice.
Oui.
Bon, donc qui est un cas d'école, si vous voulez, de nombreux dysfonctionnements policiers, judiciaires.
Et
politique, bien entendu, et notamment judiciaire. Et je voudrais qu'on réécoute, par exemple, une des conférences de presse du procureur de Nice à propos de l'affaire Geneviève Leguet.
En tout cas, moi, ce dont je suis sûr, c'est que j'exclus une cause. J'exclus le fait qu'elle était en train de courir et qu'elle se soit cassée la figure, si je puis me permettre l'expression, toute seule. Voilà. C'était une hypothèse, hein, c'était possible. Non, elle était vraiment dans un flux qui avançait, avec des personnes qui reculaient devant les forces de sécurité, qui étaient entre elles et les forces de sécurité. Ce dont on est sûr aussi à l'analyse des images, presque dire pixel par pixel, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité, pas par un bouclier ou par un homme. On voit à un moment donné une image, je pense d'ailleurs c'est une image de vos confrères de France 3, où il y a un gendarme mobile qui l'enjambe. Elle était déjà par terre en fait, donc c'est pas ça. Elle était déjà par terre. C'est pas le geste qui l'a fait tomber, puisque justement, il n'aurait pas pu l'enjamber.
Vous êtes fait une opinion aujourd'hui sur le fait, par exemple, de savoir si dans ces différentes, dans ces différents points de presse, le procureur, à l'époque où il avance des faits, manque d'informations, c'est-à-dire des informations incomplètes, ou s'il ment délibérément.
Non, il ment délibérément, mais on en a même la preuve. Hein. Ils ont les mêmes vidéos dès le début, et ils savent pertinemment qu'elle a été poussée dès le début. Et ce sont les mêmes vidéos qui sont réexploitées pixel par pixel quelques jours plus tard, qui permettent au procureur de la République de dire très exactement le contraire que ce qu'il a dit cinq jours plus tôt. Donc non.
Il les avait peut-être mal regardés.
Oui, voilà, on pense qu'on en veut. Mais non, mais l'exemple de ce procureur de la République, on peut le démultiplier à chaque fois qu'il y a une violence policière, c'est systématique. Rappelez-vous, pour le dossier d'Adama Traoré, le procureur de la République de Pontoise a été carrément muté directement après en disant qu'il y avait eu des expertises médicales qui attribuaient ça à une infection préalable et pas du tout à un problème respiratoire. C'est une programmatique judiciaire qui correspond à une programmatique politique et administrative que de nier l'existence même des violences policières.
Le fait pour un procureur de mentir, on peut dire c'est une bonne guerre, ça fait partie de son rôle, ou est-ce que ça constitue un délit, et est-ce qu'un avocat peut faire valoir que ça constitue un délit ?
C'est compliqué de poursuivre un procureur, parce que quand on va déposer la plainte contre le procureur, on la dépose entre qui ? entre les mains de ce même procureur.
Le procureur du département voisin. Enfin, si
on... Non, il y a une compétence territoriale, on doit le déposer entre les mains de ce même procureur. Donc on touche au cœur même de la problématique des violences policières, ou du mensonge des institutions judiciaires dans les violences policières. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déposé dans un autre dossier, celui de Jérôme Rodriguez, une plainte pour violation du secret de l'enquête. Pourquoi ? Parce que BFM TV avait annoncé, alors qu'on était encore en enquête préliminaire devant l'IGPN,
que une enquête diligentée
par le procureur de la République, donc personne n'avait accès, vraiment personne n'avait accès à cette enquête, à part les policiers de l'IGPN et le procureur. Et on annonce sur BFM à ce moment-là que le sang retrouvé sur la balle de LBD qui était censé, enfin qu'on avait retrouvé par terre à côté de Jérôme Rodriguez n'était pas le sang de Jérôme Rodriguez. Cette information, elle ne peut venir que soit du procureur de la République, soit de l'IGPN. Et bien évidemment, je dépose cette plainte. Mais qui est-ce qui va instruire cette plainte ? Parce que normalement, pour ce type de fait, c'est l'IGPN qui instruit cette plainte, ou bien c'est le procureur de la République qui peut éventuellement être visé, qui va... Mais vous voyez ce que je veux dire ? On touche au cœur même du système judiciaire, voire du système politique, parce que les violences émanent à la fois de la sphère politique, mais également du traitement judiciaire par les personnes qui sont visées. Les policiers dépendent également du ministère de l'Intérieur et de la sphère judiciaire.
– Mais on voit bien qu'on est dans une situation totalement kafkaïenne, donc vous avez déposé cette plainte entre les mains du procureur, et il s'est passé quoi ?–
Pas de nouvelles.
– Voilà, mais vous l'avez fait quand même.
– Je le fais quand même, je fais une demande de dépaysement, et au bout de 3 mois, s'il n'instruit pas, on a le droit de saisir un juge d'instruction qui est censé, je dis bien censé, être plus indépendant que le procureur de la République qui, lui, est un subordonné du ministère de la Justice.
– D'accord, c'est dans ce but que vous l'avez fait ?–
Bon, on le fait toujours, et puis on attend ces 3 mois, et puis après on va directement devant un juge d'instruction. Le seul problème qu'on trouve, et c'est vraiment terrifiant, hein, c'est qu'aujourd'hui, même les juges d'instruction considèrent que les violences policières n'ont pas à être traitées en matière pénale. J'ai un juge, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « le code pénal, c'est fait pour les voyous ». Ce n'est pas fait pour les policiers ou pour les autorités administratives. Il y a une vraie politique. Ils sont tous fonctionnaires, ils travaillent tous ensemble. Donc, quand on veut aller devant un juge d'instruction indépendant, on dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Et c'est à lui de freiner ou pas les ouvertures d'instruction ou de permettre l'instruction. Et on a une chose qui est terrifiante, et ça va commencer à sortir. Hein. Il n'y a pratiquement aucune instruction ouverte sur les dossiers de violences policières, par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes.
C'est que des enquêtes de l'IGPN.
C'est que des enquêtes de l'IGPN et aucune poursuite à ce jour. Quand vous prenez un gilet jaune qui commet des violences contre un fonctionnaire de police, 2 jours après, il est devant une juridiction, c'est ce qu'on appelle les comparutions immédiates, il est jugé, condamné, il va en taule. Quand vous avez un fonctionnaire de police avec des vidéos très claires, explicites, qui commet des violences sur un manifestant, 5 mois plus tard, on n'a aucune orientation judiciaire et il est probable qu'à peine 5% de ces procédures aboutissent.
Et là, on est bien dans une résistance, j'allais dire, psychologique.
– Non, volontaire. Ah non, volontaire.
– Oui, bah c'est ça.
– Mais pas que psychologique, pas inconsciente, j'entends, pardon.
– Oui, pas inconsciente, dans une résistance volontaire de l'institution judiciaire.
– Et illégale.
Et voilà.
Et illégal, bien sûr.
Illégal, oui et non, puisqu'il n'y a pas de délai. Ils n'ont pas de délai. On peut toujours faire durer une instruction, la prolonger.
Il y a des pratiques illégales. Je vous donne un exemple que j'ai rencontré encore il y a cette semaine. Les victimes de violences policières gilets jaunes, ils n'ont pas l'argent pour payer les consignations. Les consignations, c'est ce qu'on doit payer pour faire ouvrir l'instruction. C'est une somme qu'on dépose au cas où la procédure est abusive. Normalement, quand on n'a pas d'argent, eh bien, le doyen des juges d'instruction fixe les consignations à zéro. C'est aussi la loi. Et là, eh bien, il les fixe à des sommes qu'ils ne peuvent pas payer pour les empêcher d'ouvrir des instructions. Alors, on demande l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, normalement, ça permet de fixer les consignations à zéro. Et l'aide juridictionnelle nous répond, tant que l'information n'est pas ouverte, vous n'aurez pas d'aide juridictionnelle. Donc, on bloque la possibilité pour des victimes graves, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, de pouvoir utiliser la justice pénale, alors que d'autres peuvent l'utiliser.
Alors, après, il y a toujours la solution de la cagnotte. Hein.
Oui, et on l'utilise. Voilà. On l'utilise, hein, ça permet, mais bon, après, ça pose d'autres problèmes entre les gilets jaunes.
Sur les violences policières, ce qu'on peut dire, et tout le mouvement des Gilets jaunes le montre, c'est qu'il y a deux façons pour le pouvoir politique, aussi pour les juges, de gérer. Soit on va dire qu'il n'y a pas eu de violences policières, on peut reprendre les déclarations de Christophe Castaner, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, alors qu'on voit que ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est encore plus grave, me semble-t-il, c'est qu'on va dire que la personne qui a été mutilée, blessée, frappée, violentée, c'est sa faute. Ça, on le voit très bien dans le cadre des Gilets jaunes. Et on l'a vu aussi quand Emmanuel Macron a déclaré, à propos de Nice, hein, qu'il souhaitait à cette dame une forme de sagesse et qu'à cet âge-là, on ne devrait pas les manifester. Donc, non seulement il n'y a pas de violence policière, mais si les personnes sont blessées, mutilées, perdent un œil avec ça, c'est leur faute. Ils n'avaient qu'à, ou elles n'avaient qu'à, pas se trouver là. Et là, on est vraiment dans un cercle totalement vicieux duquel il est difficile de sortir.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pointez des dérapages, ou en tout cas des dysfonctionnements judiciaires, vous pointez des dysfonctionnements politiques, mais moi j'ai envie de dire que les dysfonctionnements politiques m'étonnent moins que les dysfonctionnements judiciaires. Ce que je veux dire, par définition, on peut. L'État se défend contre ceux qu'il considère comme des éléments subversifs. Donc là, on est dans quelque chose de très classique, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Évidemment, c'est beaucoup plus étonnant quand on prend conscience en détail. Des petits subterfuges judiciaires que vous venez de détailler pour finalement que justice ne soit pas rendue.
Il y a un esprit de corps des fonctionnaires, ça c'est une première chose au niveau général, mais il y a également le fait que les fonctionnaires de police ou de la gendarmerie sont les outils à la fois du pouvoir exécutif, mais également du pouvoir judiciaire. Et si le pouvoir judiciaire commence à remettre en cause les actes des policiers ou des gendarmes, ils perdent leur outil. Et donc, ils ne peuvent plus fonctionner. C'est pour ça qu'on a une vraie problématique et qu'il faut aller vers une réforme visant peut-être à créer une commission qui est composée de personnes en retraite ou de personnes détachées de tout ce corps de fonctionnaires pour traiter le problème des violences policières. Sinon, on n'en sortira jamais.
Très bien. Écoutez, merci à tous les deux pour ces éclaircissements. Je pense que les choses sont maintenant beaucoup plus précises dans l'esprit de ceux qui nous lisent et qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.